un seul de ces éléments, peut-être l'élément le plus sensible, le plus visible, le plus manifeste, la confession, qui est l'élément central d'après le catéchisme, au moins du point de vue visuel, puisqu'il y a une préparation, réflexion sur nos péchés, ensuite la confession, et puis ensuite l'accomplissement de la pénitence, les trois parties du sacrement. Alors je voudrais d'abord, c'est toujours intéressant d'avoir d'abord une vue d'avion avant une vision de détail. Saint Jean Bosco disait à ses enfants, si vous vous confessez toujours bien, on verra ce que c'est puisque c'est l'objet aujourd'hui, une confession essentiellement centrée sur la contrition. Si vous communiez, bonne condition, en vue de nous nourrir, hein, la communion, nutrition, pourrions dire ça, voyez. Confession, contrition, communion, nutrition. Et si vous aimez Marie, vous êtes sûr moralement de vous sauver. Et il revenait inlassablement sur la confession, contrition, sur la communion qui nourrit la charité, qui donne le désir d'union à Dieu, et sur ce qui assure ces deux grâces, de bien user de la confession, de bien user de la communion, l'amour de Marie. Plus vous confesserez bien, plus vous aurez le cœur qui sera pur, et plus vous serez une âme chérie de Marie. Les saints sont confessés jusqu'au dernier jour de leur vie. Pour des vétis même, disent parfois leurs confesseurs. On n'est jamais assez pur, on n'a jamais sa conscience assez pure, disait Jeanne d'Arc, sans pour cela nourrir le scrupule en nous, c'est autre chose. Bien communier, nous nourrir de Dieu, pour être un jour nourri éternellement de la vision divine. Et puis faire habiter en nous l'esprit de Jésus et de Marie, les vertus de Jésus et de Marie. Pour que quand nous serons à la porte du ciel, bon Dieu ne voit en nous que les vertus, que les dons, que les grâces de Jésus, que nous soyons parfaitement transformés en Jésus et Marie, à tel point que ce qui devrait être normal pour tout chrétien, même pas seulement les religieux, les prêtres, ne devrions pas passer par le purgatoire. Le bon Dieu ne souhaite pas ça. C'est comme, il ne souhaite pas évidemment qu'on aille en enfer, encore moins, mais si, bon Dieu, ce n'est pas son souhait que nous passions par le purgatoire. En principe, nous aurions tout ce qu'il faut, la confession, la communion, l'imitation des vertus de Jésus et de Marie, tout ce qu'il faut pour être tout droit au ciel. Donc, préparation de cette confession. Et là, vous avez les feuilles qu'on vous donne, donc avec pratique de la confession. Je sais comment s'y prendre, un peu, c'est un petit peu formel tout ce qu'il y a là, mais derrière, l'examen de conscience, les commandements. Alors, importance, bien sûr, de se former la conscience, savoir quelle est la loi chrétienne, évidemment. On peut supposer qu'en principe, vous savez quelle est la loi catholique, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Vous savez aussi ce qu'est le péché. Vous avez eu déjà une instruction sur le péché. J'aimerais revenir sur un point peut-être qui a été souligné déjà dans votre instruction sur le péché. Vous savez que le péché est une offense faite à Dieu, d'abord et avant tout. Et j'aimerais que vous soyez attentifs à une expression qui a été employée par de saints prédicateurs et qui est tout à fait fondée, tout à fait profonde, qui résume bien cette pensée que le péché offense à Dieu. Et ils ont une expression très courte, très belle, très forte, très impressionnante. Le péché, c'est le mal de Dieu. C'est aussi le mal de la créature, le mal de l'homme. Mais c'est d'abord et avant tout le mal de Dieu. Ça rejoint ce que je vous expliquais hier. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu et pour la possession légitime de Dieu. Possession comme on peut posséder quand on aime, évidemment. Ce n'est pas une possession matérielle, une possession de propriétaire. C'est l'usage d'un être dont nous savons aimer et que nous aimons. Donc, gloire de Dieu, possession de Dieu. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il prive de Dieu, prive la gloire de Dieu. Normalement, nous devrions rayonner la sagesse, la bonté, la sainteté de Dieu. Et le péché fait que cette sagesse n'habite pas en nous. Cette bonté n'habite pas en nous, cette miséricorde n'habite pas en nous, voilà, cette sagesse. Tous les beaux. En fait, dans le péché, il y a en minuscule la négation pratique des perfections divines. la négation pratique de ce qui devrait glorifier Dieu. Et nous nous prouvions maintenant, évidemment, on ne fait pas sans salut, quand, dans le cas du péché grave, bien sûr, qui réalise éminemment la raison de péché, la raison formelle de péché, comme on dit en théologie. Nous perdons Dieu, nous sommes dépossédés. Et c'est vrai que la simple contrition, le simple regret déjà d'avoir cassé quelque chose en nous, nous ouvre facilement à penser qu'on a calcé quelque chose dans le bon Dieu. Et cela nous ouvre, voyez-vous, sur ce qui est de principal dans, quand vous cherchez vos péchés. Ça peut être bien d'en chercher la quantité, l'espèce, etc., le nombre, et souvent vous y passez beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps, alors que vous devriez passer du temps à être contrite. Alors on me dit, oui, mais il faut les signes, quels sont les signes, qu'on est contrite, est-ce que c'est la sensibilité, on verra. Passez pas assez de temps à voir que vous êtes fait mal à vous-même, ça vous le savez souvent à cause du trouble que vous ressentez, du péché grave ou léger. Vous ne ressentez pas assez, je ne parle pas du ressenti seulement sensible, sentimental. Vous n'avez pas assez conscience, voilà, peut-être plus profond de dire cela, pas assez conscience que votre offense, elle fait du mal au bon Dieu, elle fait du mal à Jésus-Christ. Et vous voulez avoir une bonne contrition, méditez la passion. Je n'ai pas pensé à porter le texte là, mais il y a de très beaux textes dans Bienheureux Angèle de Foligno et d'autres saints où ça a été pareil, mais c'est très beau, très bien dit dans les visions, le livre des visions et instructions, la Bienheureuse Angèle de Foligno. Le Seigneur se montre à elle sur la croix avec toutes ses blessures et il lui dit à quoi correspond chacune de ses blessures. Il lui dit, pour tes vilaines pensées, regarde les épines de ma couronne. Pour la vanité qui a habité ton visage, regarde les crachats et le sang qui sont sur moi. Et il détaille ensuite toutes les peines qu'il a eues dans son corps en lui disant, ça guérit, non seulement ça expie le péché que tu as fait, mais ça te mérite la grâce de ne plus faire ces péchés. Rappelons-nous toujours ça. La passion de Jésus-Christ expie nos péchés que nous avons commis et nous donne une force efficace de ne plus les commettre, qui nous est transmise essentiellement par le sacrement de pénitence. Alors vous plaignez peut-être de ne pas avoir de contrition. Regardez la passion et dites avec foi. Prenez n'importe lesquelles des scènes de la passion, depuis l'agonie jusqu'à la mort de notre Seigneur sur la croix. N'importe quelle scène. Il y en a qui sont touchés par l'agonie, d'autres par une station du chemin de la croix. Peu importe, peu importe. Et dites-vous, ça, c'est moi qui ai fait ça. Moi qui ai fait ça. Alors, je ne sais pas les liens mystérieux, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais c'est moi qui ai fait ça. Alors là, vous aurez la contrition à tout coup. À tout coup. Sûr. Pas besoin de chercher loin des motifs de pleurer vos péchés. Même si vous voyez aussi les maux qui résultent souvent des péchés qu'on a commis, en nous-mêmes ou dans les autres. Et c'est bon aussi. Puisque le bon Dieu attache le prochain ou nous-mêmes, c'est la prunelle des yeux du bon Dieu. Si nous avons blessé le prochain en quelque chose d'important, touchez le bon Dieu. Et si nous l'avons touché en nous-mêmes aussi, parce que nous sommes quelque chose de Dieu. Admettons que vous n'ayez pas encore assez de contrition, chers amis. Pour ceux ou celles, puisque vous êtes des dames, il n'y a pas assez de contrition. Qu'est-ce que nous dit saint Ignace? Je ne vais pas m'y étaler parce que pour certaines, peut-être, je vais leur donner des cauchemars pour cette nuit. Je ne veux pas quand même. Faites un petit tour en enfer. Si vous n'avez pas de contrition pendant des semaines et des mois sur un péché qui vous semble qu'avec votre raison, votre intelligence, vous voyez que ça ne bouge pas, vous ne voulez pas quitter ce péché, vous ne voulez pas aller en enfer. Pour y faire quoi? Pour y voir seulement les mots qui vous attendent? Bon, ça peut être bien. Mais plus que ça, chers amis, plus que ça, mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Chers amis, admettons que vous soyez en état de péché mortel, ce que je souhaite à personne. En état de péché mortel. Vous avez encore un grand motif d'action de grâce. Un grand motif de dire un merci joyeux au bon Dieu. Mon Dieu, si vous me donnez encore ces minutes de vie, c'est pour que je vous aime. C'est pour que je regrette mon péché. Et au sein des plus grands malheurs de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, si nous sommes encore vivants, merci mon Dieu, je ne suis pas en enfer. Merci mon Dieu, je ne suis pas en enfer. Car un seul péché mortel, vous le savez, pourquoi saint Ignace fait-il méditer un seul péché mortel? Pourquoi certains sont pour un seul péché mortel en enfer et d'autres qui en ont commis des dizaines vivent tranquillement sur la terre? Nous ne savons pas, c'est le mystère de la miséricorde divine. Nous n'avons pas à juger ces choses-là, ça ne nous regarde pas, c'est trop grand pour nous. Nous savons simplement que le bon Dieu a un cœur bien plus large, bien plus haut, bien plus juste, bien plus aimant que le nôtre, et qu'il est infiniment juste et infiniment miséricordieux, et qu'il veut sauver tout le monde. Le bon Dieu veut sauver tout le monde. C'est vrai qu'à certains, il va donner plus de grâce qu'à d'autres. Mais il veut sauver tout le monde. Il ne pourra jamais dire, il n'y a pas un seul damné en enfer qui peut dire, c'est à cause de Dieu que je suis en enfer. Tous savent très bien qu'ils y sont à cause de la mauvaise volonté. C'est même un des objets de leur rage pour les démons ou pour les damnés. Savoir, c'est eux-mêmes qui sont perdus. Alors ça fait réfléchir. Beaucoup réfléchir. Dire, mon Dieu, je respire, je suis en vie, vous voulez que je vous aime. Vous me donnez cette minute de vie pour que je vous aime et que je haïsse ce qui est contraire à votre amour. Car notre vie chrétienne, c'est un amour du bien et un éloignement du mal. Amour du bien pour donner de l'amour, éloignement du mal, pour éloigner ce qui est mauvais, ce qui est malicieux, ce qui nous fait du mal à notre âme, du mal aux autres, du mal au bon Dieu surtout, mal à Jésus-Christ. Il n'y a pas de motif plus fort pour regretter le péché que la passion de Jésus-Christ, l'enfer, et pas seulement l'enfer, je pense à l'enfer, à moi, pour moi, mon petit moi là qui serait en train de griller, mon corps et mon âme et que sais-je encore, et avec la compagnie des démons et d'autres damnés, en entendant des choses qui ne sont pas du tout agréables. Mais toutes ces âmes que je n'aurais pas sauvées, parce que moi-même je serais en enfer, j'y pense à ça, ou toutes ces âmes qui ne sont pas sauvées parce que je ne suis pas fidèle à ce que j'ai reçu, moi, comme quelqu'un. Nous ne nous sauvons jamais seuls et nous ne nous perdons jamais seuls. Jamais. Il y a une loi que nous verrons spécialement dans l'Église, pour l'Église catholique, une loi de solidarité dans le corps mystique. Quand nous sauvons plein d'âmes avec nous, et d'abord les nôtres, fort probablement, le plus probablement. Mon Dieu qui vous aime, aime encore plus que vous les vôtres. Ceci dit, peut-être on vous le redira pendant la retraite, plusieurs, celles qui s'inquiètent de... des enfants ou des époux, que sais-je, de perdition et qui s'inquiètent excessivement. Le bon Dieu aime plus que vous, a plus de pouvoir que vous. Alors il vous donne peut-être une partie, c'est vrai, de sa peine de voir l'éloignement des vôtres. Mais le bon Dieu, il a plus de sagesse, plus de pouvoir et plus d'amour que vous pour sauver ceux que vous désirez sauver. Et tant qu'il y a un cœur qui prie pour une âme humaine sur la terre, elle n'est pas perdue. Le bon Dieu inspire de prier pour quelqu'un, même si c'est le dernier pécheur de la terre, le dernier vendu au diable, s'il y a encore quelqu'un qui prie pour lui, c'est encore une volonté, c'est le signe le plus sûr qu'il y a une volonté de Dieu de sauver cette âme. Passion de Jésus-Christ, l'enfer, avec plus ou moins de détails, l'essentiel étant, vous le savez, la privation de Dieu, être privé de Dieu. La peine du dent, c'est d'abord être privé de Dieu. Et si nous étions logiques, vous savez, ou si les hommes étaient logiques, ou si nous avions un regard suffisamment aigu, nous saurions que nous avons beaucoup de damnés en sursis sur la terre. Les pécheurs qui vivent tranquillement, parce qu'ils ont les biens qui accompagnent les vies de leur corps, de leur esprit, que Dieu leur donne d'ailleurs, en vue de les convertir, en vue de les amener à sa miséricorde. Eh bien, le seul fait d'être privé de Dieu, privé de la grâce, c'est déjà être un damné en puissance, en sursis. Alors, c'est pas qu'on l'est, hein, attention, puisque tant qu'on vit, je vous dis... Tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, c'est encore bien plus fort que ce qu'on dit, que ce que dit, peut dire la sagesse populaire. Si un pécheur, aussi grave soit-il, s'il vit encore, c'est bon Dieu veut lui donner sa grâce, sa miséricorde, à travers l'Église, à travers des âmes qui s'offrent pour lui. Alors il faut bien nous rappeler ces choses-là, que ce soit bien net dans notre esprit. Et c'est éminemment encourageant. Quand on voit la vérité, le bon Dieu donne avec ce qu'il faut, la force, la grâce, la lumière, la chaleur, pour que nous bénéficions, nous mettions bien en usage ces vérités. Passion de Jésus-Christ, enfer, larmes de Marie, offrez souvent les larmes de la très sainte Vierge Marie avec la passion. Vous aurez toujours la contrition. Et c'est le plus important. Et cette contrition, voyez-vous, elle vous est donnée bien avant le sacrement. J'explique souvent aux enfants au catéchisme. Si par malheur vous commettez un péché le lundi ou le mardi, c'est à souhaiter à personne, mais enfin ça peut arriver, on fait une faute grave. Habitude, entraînement, que sais-je, retour de faiblesse, habitude invétérée. Bon, vous posez, vous dites votre acte de contrition et vous cherchez des motifs de regretter votre péché, en pensant à la passion, en pensant aux bienfaits de Dieu. Jamais nous n'aurons autant que quand nous... Comment, mon Dieu, vous pensez qu'à me faire du bien et moi, je pense qu'à vous faire du mal. Comment ça se fait? C'est pas juste. Voilà. À ça, ça réveille la contrition. Donc, vous commettez. Et puis, vous dites votre contrition, etc. puis vous dites, dimanche prochain, là, quand je vais aller avant la messe, je vais me confesser. Mais d'ici là, je ne suis pas trop sûr que j'ai des airs de chien battu. Je ne sais pas si le bon Dieu m'a pardonné, pas pardonné. Est-ce que mes actes ont encore quelques mérites? Est-ce qu'il ne va pas aller me jeter dans son enfer, etc. Voilà des sentiments de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que d'être un fils ou une enfant de Dieu. Chers amis, si vous pleurez votre péché avec l'âme, pas nécessairement avec les yeux de, encore ça puisse accompagner. Dieu, vous, par la contrition parfaite, vous remet déjà en action. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas aller vous confesser. Mais vous avez déjà une contrition qui est suffisante pour vous remettre en état d'amitié. Il faudra quand même aller vous confesser. D'accord, sûr. Mais soyez rassurés, d'ici dimanche prochain, vous aurez le temps de poser des actes méritoires, des actes de charité. Et si cette contrition est un petit peu difficile à obtenir, sachez que peut-être on vous l'a dit ce matin dans la grâce, la question de la grâce, que c'est beau. C'est beau cette vérité, très encourageant. Un pécheur qui vient de faire cette faute, il avait par exemple, je ne sais pas moi, bon je prends un chiffre, hein, c'est pour matérialiser, il avait 330 degrés de charité, admettons, oui, bon, c'est très matériel. Il perd tout ça. Qu'est-ce que Dieu va lui rendre après? Moins de 330, jamais moins, jamais moins. Le bon Dieu rendra jamais moins de 330. Mais par contre, à cause de la contrition, il peut doubler, tripler, ça peut être la progression arithmétique, là, plus. Ou alors, cas de Marie-Madeleine, progression géométrique, multipliée par. Jamais moins. C'est comme ça. Ce que le bon Dieu a donné, c'est donc son repentance. Il vous rend tous les degrés de charité, son amitié, les vertus, tout ce que vous aviez, l'activité de l'organisme spirituel. Et plus la contrition s'intense, il rend encore plus. Alors je vous dis, hein, arithmétique, là, plus, ou alors multiplier, hein, puissance x, là, x puissance 3, puissance 4, puissance 5, etc., pour les matheuses. C'est pas beau, ça? C'est la grandeur du Dieu. Sa bonté, sa magnificence. Il est large, le bon Dieu. Il n'est pas bonasse, hein, attention. Pas bonasse. Bon, bienveillant, bienfaisant, tout-puissant, miséricordieux. Pas bonasse. C'est pas un bonasse libéral. Le Dieu, c'est pas un bonasse libéral. Non. Il a la libéralité, mais sûrement pas le libéralisme. Il est généreux, il est grand, il est magnifique. Il n'est pas libéral. Parce qu'il n'a pas une fausse conception de la liberté, le bon Dieu. Il est éminemment libre, parce qu'il est éminemment sage, éminemment bon, éminemment puissant. Il n'y a pas une once de libéralisme dans le bon Dieu, mais il y a toute la libéralité, la générosité. Alors, travaillez votre contrition, c'est plus important que le reste. Oui, mais je risque d'avoir oublié des péchés, gna. Ah, je vais peut-être oublier un dans les coins, là, il y a l'étoile d'araignée. Alors, spiritualité de l'iceberg. Kézako. Alors, spiritualité de l'iceberg. Vous savez que l'iceberg, là, au pôle sud ou au pôle nord, là, c'est... vous voyez quelque chose sur le dessus, puis il paraît dessous, il y a beaucoup plus. Alors, vous travaillez à regretter ce que vous voyez d'abord. Il y en a, sont tellement obsédées par ce qu'il y a dessous, l'iceberg, qu'elles voient, elles regrettent pas ce qu'elles voient. Regrettons ce que nous connaissons d'abord, avec l'intensité, la force, la précision que Dieu veut, en prévoyant aussi les moyens de ne pas retomber dans les mêmes panneaux, en éloignant l'occasion notamment. Et plus nous aurons une vision aiguë de ce qui se voit, plus le bon Dieu, alors, il fera remonter l'iceberg, là. Il vous montrera d'autres choses que disait. C'est beau, hein, ce qu'il dit, Monsieur Chevreau, là. Oh là là, c'est beau, ça. Et c'est pour nous. C'est beau. Et surtout, c'est bon et c'est vrai, surtout. Plus important, c'est bon et vrai, avant d'être beau, c'est bon et vrai. Plus nous avancerons vers le bon Dieu, plus nous verrons la grandeur, la malice des péchés qu'on a pu commettre. On n'en avait pas la connaissance que vous avez fait il y a 20 ans, qui est peut-être gravissime. Maintenant, vous commencez à aimer un peu le bon Dieu. Oh là là, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? J'étais aveugle, j'étais fou, j'étais distrait, j'étais ignorant souvent, ou j'étais faible. Et maintenant, je m'approche de lui, de la lumière, etc. Vu à sa lumière, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est grave ce truc-là. Oh, j'ai l'impression que j'allais me reconfesser tout de suite. Non, allez pas vous reconfesser, vous avez bien la contrition, ça tombe bien. Vous pouvez attendre la prochaine confession, oui, de vous confesser, mais non, c'est bien. Il y a le Saint-Esprit qui vous travaille. Dans le premier effet, nous faire regretter nos péchés. Envie qu'ils soient remis et pardonnés. Ah hey. N'oublions pas Les lumières que donne Dieu, c'est une participation à la connaissance qu'il a lui-même. Le péché, c'est, pour lui, c'est rien, c'est du néant. Enfin, c'est du néant. C'est quand même son mal, hein, attention. Parce que c'est le mal de sa créature, le mal de sa création, le plus grand mal de la création. Mais il le voit à la lumière de son éternité, à la lumière de sa sagesse infinie, à la lumière de sa bonté infinie, à la lumière de sa puissance infinie. Alors, ça prend des contrastes, nous, bon, on ne le voit qu'à notre niveau. À notre niveau. Donc c'est bien. Alors, travailler cette contrition. Alors, on dit qu'elle est parfaite ou imparfaite, suivant les motifs. Je dis que les motifs de perfection, en principe, c'est surtout, bien sûr, la passion, l'offense du bon Dieu, et puis les biens, bien sûr, les vertus qu'on a blessées, la justice, la droiture, la sincérité, la tempérance. Bon, c'est plus souvent véniel dans la tempérance, mais surtout tout ce qui concerne les péchés contre la justice, les péchés de la langue, etc. On regrette ça, à sa lumière, à lui. Après, le bon Dieu nous montrera d'autres choses. Bon, c'est vrai. D'abord, nous débarrasser du péché mortel, évidemment, hein, qui est grave, qui est plus ou moins, avec plus ou moins de lumière et plus ou moins de volonté. Bon. Puis après, surtout, on le verra pour le combat spirituel ce soir, le péché véniel délibéré, là, celui, le petit péché, bon, ça ne m'envoie pas en enfer, mais je le fais quand même habituellement et je ferme une porte au bon Dieu, à son amour. Et puis les péchés véniels, bon, semi-délibérés, et puis les imperfections, et puis tout ça. Il faut travailler un peu. Vous voyez, le signe que nous aimons la vérité, c'est nous haïssons l'erreur. Le signe que nous aimons Dieu, c'est que nous haïssons le péché. Plus les saints ont été saints, plus ils ont haï le péché. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand amour de Dieu. Un grand amour de Dieu correspond à haine du mal opposé à Dieu, haine du mal de Dieu, haine du mal de Jésus-Christ. Si nous pouvions entendre notre Seigneur nous dire « J'ai mal à tous tes péchés ». J'ai mal à chacun de tes péchés, comme si c'était moi qui l'avais commis, comme si. Et c'est bien ce qu'a fait notre Seigneur. Il a fait comme si tous les péchés qui se commettent, c'est comme si c'est lui qui les avait commis, comme si. Le pécheur par procuration, il s'est fait pécheur et pénitent, entre guillemets, c'est une expression que l'Église utilise avec beaucoup de délicatesse, pécheur et pénitent universel par procuration, comme si c'était lui, le bouc émissaire de tous nos péchés. C'est très fort. C'est sûr, quand on réfléchit à ça, vous avez fait comme si c'était vous qui avez commis ce que moi j'ai fait. Quand on réfléchit un peu à ça, comme vous m'avez aimé, Seigneur. Quoi ? Ces péchés d'envie, ces péchés d'impureté, ces péchés de gourmandise, ces péchés de méchanceté, ces mauvaises paroles, vous avez fait comme si c'était vous. Vous avez pris l'addition sans avoir rien consommé du péché. À ma place, pour moi, comme si c'était vous qui aviez tout fait. Ça doit normalement déclencher un peu la contrition, j'espère pour vous. Sinon, alors, vous êtes des êtres dénaturés. Non, parce que vous n'êtes pas. Plus des chrétiens. Alors, travaillons habituellement, comme chrétiens, à voir cette fonction, cette contrition, qui est le plus important dans votre préparation. Pensez à vos péchés, d'accord, très bien. Mais surtout, pensez. Et la contrition est à la fois quelque chose qui vient de l'effort de l'homme et qui est surtout une grâce surnaturelle. C'est le fruit d'une grâce de Dieu et de l'effort de l'homme. Et quand les deux se joignent, vous avez la contrition surnaturelle. Plus important, surnaturelle. Voilà les qualités de la contrition, réelle, bien sûr. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir fondé. Parce que vous êtes infiniment bon. Hein, ouais, moi, je suis indéfiniment mauvais. Infiniment parfait. Et moi, indéfiniment imparfait. Infiniment aimable. Et moi, pas trop aimable. Et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Sainte Grâce, etc. La résolution, le bon propos. Saint Thomas nous dit que la contrition est la douleur du péché, avec le propos, le ferme propos, de confesser et de satisfaire. Voilà, il y a ça dans la contrition. Douleur du péché, avec propos, volonté, de confesser et de satisfaire, c'est-à-dire de réparer. Les trois parties de la confession. Alors, est-ce que ces contritions d'être accompagnées, donc, question subsidiaire, de larmes ? Madeleine ? Non. Souvent, de fait, c'est vrai qu'il y a, mais pas forcément. Vous pouvez être comme ça, là, je pleure pas. Bon, vous pleurez pas. Comme ça, il n'y a plus de liquide lacrymal. Bon, donc, ça va, vous pleurez pas. Bon. Est-ce que votre cœur, est-ce que vous avez encore de la tâche à ce péché ? Est-ce que vous allez chercher à vous en détacher ? Oui ? Alors, c'est bon. N'inquiétez pas. Ah, ben, je suis pas trop sûr. Alors, exercez la foi. Allez vous confesser. et bon Dieu donnera ce qu'il faut. Contrition imparfaite, pour des motifs plus inférieurs, donc je dis l'enfer, par exemple, bon. Ou le trouble, tout ce que vous voyez, le désordre qu'aura causé le péché. Souvent, pourquoi nous avons du trouble après nos fautes? C'est souvent pas d'abord pour la malice, c'est aussi un peu pour la malice du péché, mais surtout parce que nous voyons tous les maux que ça attire. Le trouble dans l'âme, l'aveuglement dans l'intelligence, la faiblesse de la volonté, la mortification de notre amour propre, etc. Et puis les désordres autour de nous. Cette personne a un sale caractère. Et ça fait du mauvais temps autour d'elle. Bon. Contrition doit être réelle, surnaturelle. Voilà, infiniment bon, infiniment aimable. Universelle, s'étendre à tous les péchés dont on a conscience. Alors, on n'a pas forcément toute conscience, hein. Il y a le dessous de l'iceberg, là. Bon, on fait ce qu'on peut, mais enfin, vous ne vous torturez pas. Cherchez tranquillement vos péchés. Et on cherche à fuir les attaches même aux péchés véniels. Vous avez vu la distinction mortel-véniel, bon, je pense. Mortel, on est détourné complètement de la fin. C'est comme si on tournait le dos, bon Dieu. La direction, elle est par là, vous êtes tourné dans l'autre sens. Déviation absolue. Péché véniel, vous arrêtez en chemin, quoi. Vous êtes encore en direction, mais il y a un pneu crevé, quoi. Vous êtes sur le côté, ou alors une voie de traverse, là. Vous avez... Au lieu d'aller à Flavigny, vous allez à... Bon, trifouiller les oies. Bon. Souveraine, en pensant que c'est le plus grand mal. Tous les saints nous disent... Un péché mortel, c'est plus, un plus grand mal que la destruction de tout l'univers. S'il y avait un cataclysme sur la terre ou dans l'univers entier, ce serait moins qu'un péché mortel. Si un ange du ciel pouvait commettre un péché mortel, il serait un grand coup de pied derrière pour sortir du ciel. C'est un cataclysme, un péché grave. Pour les anges, ce serait qu'un péché véniel. Mais ils ne peuvent pas faire de péché véniel, ils ne peuvent faire que des mortels. La douleur est la condition principale pour obtenir le pardon des péchés. Vous connaissez cette histoire de Saint-Vincent Ferrier? Un homme qui vient se confesser avec un énorme et abominable péché. Oh là là, pour ça, surtout à cette époque-là. 7 ans de pénitence. Oh, mon père, est-ce que je vais me sauver avec si peu de pénitence? 7 ans, c'est pas suffisant pour ce que j'ai fait. Oh là là, il y a une bonne contrition, celui-là. Bon, je crois que sa contrition peut suffire à expier le péché. Vous jeûnerez 3 jours au pain et à l'eau. C'est pas mal. Et continuez de pleurer. Si léger! Comment ça peut effacer, comment 3 jours de pain et de l'eau peuvent effacer la grandeur du péché? Vraiment, celui-là, ah, si je pouvais avec Saint-Vincent Ferrier, dire, c'est moi une contrition pareille, il y a la sienne, ou je vous donne 3 pater ave. Bon, le pêcheur n'a pas trop insisté, on dit, je suis devant un saint, là, Saint-Vincent Ferrier. Il n'eut pas achevé son premier pater qu'il mourut de douleur à ses pieds. Il apparut au saint et lui révéla qu'il était dans la gloire sans être passé par le purgatoire. Dieu s'étant contenté de sa douleur pour l'expiation de ses péchés. Bon, c'est une douleur extraordinaire, ça. Mais c'est pour vous faire comprendre que la contrition, à elle seule, vous mérite le pardon. Et même la rentrée en grâce avant le sacrement. Quand elle est parfaite. C'est plus sûr d'aller confesser, d'accord, hein? On est d'accord. Dites pas que, parce que j'ai dit que la contrition parfaite est importante, c'est plus la peine de se confesser. À ce moment-là, on se pardonnerait, on trouverait vite à bon compte qu'il n'y a pas de confession. Vous savez que le grand ennemi, la confession, et des bonnes confessions surtout, c'est-à-dire des confessions qui confessent tout, qui ne laissent rien. Bon, de ce que vous connaissez avec conscience, hein, le démon, il a horreur de la confession, horreur de ça. Et qu'est-ce qu'il fait entre autres pour ça? Eh bien, je crois que c'est encore, non, c'est pas dans Saint-Vincent Ferrier, c'est Saint-Antonin. Saint-Antonin est en train de confesser, et dans un coin de l'église, il entendait ricaner. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des gens qui font du bruit dans l'église. Et il sort. Et qu'est-ce qu'il voit là? Un démon. Ouais, ça arrive qu'au saint. Ne vous inquiétez pas, en principe, vous ne rencontrerez pas de démons. Comme ils peuvent nous attraper avec des choses bien plus faciles, ils n'ont pas besoin de nous apparaître. Ils sont tellement laids qu'on les fuirait si on les voyait tels qu'ils sont. Bon, alors il voit, qu'est-ce que tu fais là? Je restitue. Tu restitues? Qu'est-ce que tu restitues? Tu vois le pécheur là-bas, ou la pécheresse, je ne sais pas, c'est, enfin le pénitent, qu'est-ce qu'on fait confesser là? Quand il a commis son péché très grave, là, qu'il a du mal à, sortir, je lui ai retiré la honte de ce péché pour qu'il puisse le commettre plus facilement. Et maintenant, qui va aller se confesser, je lui rends sa honte. Ça ferme la bouche, la langue. Alors, Saint-Antonin, vous imaginez, bon, il a chassé le démon, puis il a obtenu la grâce pécheur de bien se confesser. Donc, vous ne laissez pas arrêter par le respect humain. Attention. Bon, n'allez pas rajouter des péchés pour ça, comme feraient des fois des petits-enfants. Non, attention. Mais pas de respect humain. Vous ne confessez pas à un prêtre, vous ne confessez pas à de l'humain. Vous confessez à Jésus-Christ. Alors, nous sommes là, d'accord? Bon, comme ministre. Confessez à Jésus-Christ. la fin principale du sacrement de pénitence, même si on peut donner quelques paroles de consolation, d'encouragement, n'est pas une monition spirituelle d'abord. Vous venez pour avoir le pardon de vos péchés. Mesdames, dans les prieurés,
je ne vais pas me confesser à tel prêtre parce que j'aime pas trop ce prêtre. Et puis il m'a fait ci, puis il m'a fait ça.
Alors ça peut s'expliquer si pendant une semaine, deux semaines, quelques mois, mais si vous êtes en état de péché, madame, passez par-dessus ça. Vous pliez ça en quatre, vous asseyez dessus et vous allez vous confesser pour avoir le pardon de vos péchés. Et pour cela, vous n'exposez pas vos états d'âme. On confesse des actes, pas des états d'âme. Ça peut être utile après pour la direction, pour vous aider spirituellement. Des actes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, tac, 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 tac. Bon, absolution. Oh mon père, vous inquiétez pas, je ne ferai pas de frais de parole avec ce prêtre-là. Bon. Allez au prêtre. Homme de Dieu. Ah ben j'ai du mal avec tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il m'a fait. Vous avez entendu parler du pardon ? Oui, oui, mais il veut... Et surtout venant d'un prêtre, on s'attendait à autre chose. Oui, madame, bien madame. Bon, calmez-vous. Essayez quand même en attendant de trouver un prêtre à qui vous puissiez confesser vos péchés. Restez pas dans cet état-là, sous prétexte que vous êtes en pétard avec votre prieur ou là ou l'autre prêtre du prieuré. Bon. Je vais avoir des réclamations dans les entretiens privés, sans doute. Bon, je ne sais pas. Je donnerai des petites... bon, des bémols, s'il faut, ou des dièses, peut-être. Hein, attention. Les bémols, c'est un demi-ton moins. Je crois que les dièses, c'est un demi-ton de plus. Alors, bon, je verrai. Bon, peu importe. Soyez surnaturel, mesdames. Soyez surnaturel. Vous allez au prêtre d'abord pour l'absolution. Après, d'accord, si la direction vous aide, oui. Très bien, on parlera. Est-ce qu'il faut avoir même confesseur, même directeur ? Ce n'est pas obligatoire. On peut avoir deux distincts confesseurs. Pas 36 confesseurs pour 36 sortes de péchés. Allez, je vais dire ça. Puis non, d'accord. Allez, je vais pas lui dire ça. Surtout si c'est mon directeur et que je dis j'ai fait ça. Ouh ! Ouh là là ! Non, on peut avoir les deux séparés. C'est bien de temps en temps se confesser à son directeur pour qu'il voit les actes de l'âme et les tendances de l'âme. Très bien. Mais c'est deux choses différentes. La confession, c'est pour l'absolution, le pardon de vos péchés. Le directeur, c'est pour vous aider et travailler sur les causes, sur le combat spirituel dont on parlera. Vous allez confesser des actes pour avoir un pardon. Et ça, même le prêtre le plus abominable, bon, supposé qu'il soit bon, du pouvoir, d'accord, le pardon, il tombera sur vous. Et peut-être même, ah oui, mais mon père, alors ma première pénitence sera d'aller me confesser. Hein. Ouh, j'aurais fait ma pénitence avant qu'il me la donne. Hein. Bon. Bien. Alors, restez pas trop longtemps dans un mauvais état ou cherchez à vous confesser plus loin, s'il le faut, pour, bon, garder le sourire avec au moins votre prêtre avec lesquels vous vivez. Bon. Ou au moins une sereine attitude, autant qu'il dépend de vous. Bon, des actes. N'allez pas dire... je suis gourmande, je suis bavarde, je suis je sais pas quoi, je suis, ça c'est des états, dites des actes. Parce qu'on a tous les sept péchés capitaux, le prêtre aussi évidemment, n'est pas l'Immaculée Conception. Non, mais dites des actes. Et souvent les enfants sont de ce point de vue-là nos maîtres spirituels. Hein. Bon, des fois ils en rajoutent un petit peu trop. Hein. On a droit à la couleur du mouchoir et je sais pas ce qu'a fait le petit frère ou la petite sœur qui a rien à voir avec la confession. Mais enfin on a des fois un peu trop de détails, mais ça pourrait être utile parfois pour les adultes. Hein. Ils disent l'acte, mais bon, sous beaucoup de feuillage. Hein. J'ai bien dit l'acte, mais bon, en contrebande, il est passé le péché. Hein ouais, bah, vous êtes un peu... Madame, pas de fausse honte. Madame comme monsieur, pas de fausse honte, pas de respect humain. Nous ne nous scandaliserons jamais d'aucun péché. Vous savez, on peut interroger les prêtres. Hein. En 3 ou 4 ans, si on a fait, admettons, des pèlerinages... confessé dans des écoles, etc. On a entendu une palette de péchés. Si on devait scandaliser, alors il n'y a plus qu'à... c'est pas la peine de se faire prêtre, quoi. Pas de fausse... S'inquiétez pas. Souvent, nous sommes plus... Elle a du courage. Il a du courage. Il m'a confessé ça. Moi, je sais pas si moi j'avais fait la même chose, ça serait peut-être pas sorti. Hein. Ils sont plutôt édifiés de graves péchés. Alors, on peut en rajouter comme les enfants, d'accord. Nous scandaliserons jamais. Si vous avez des fausses hontes pour tel ou tel, bon, c'est vrai qu'il y a des péchés particulièrement honteux. Bon, les péchés de la chair, d'accord, même des péchés de la justice, quoi. Vous dire, ça, vous en perdez même le sens de l'honneur de vous-même en ayant fait un tel péché, une telle méchanceté, telle malice. Bon, ben, c'est prévu, mon Dieu. Aucun péché aussi énorme soit-il qu'il est prévu de pardonner si le cœur vient contrit et pénitent et humilié. Pas de fausse honte. Bon, pour celles qui font confession générale ou les péchés un peu difficiles à sortir. Bon, et puis, il n'y a pas besoin. Bon, s'il y a besoin de détails, on vous en demandera. Pas la peine forcément de donner grand-chose. Si il nous semble qu'il faut poser une question, on en posera. S'il ne faut pas, on ne la posera pas. Puis voilà. Hein, bon. Ce qui compte, c'est qu'essentiellement, vous dites votre culpabilité à travers ce péché. Puis voilà. Contrition. Qu'est-ce que je voulais ajouter avant? Donc, je ne devrais pas commencer tout de suite là. On pourrait peut-être commencer la satisfaction, mais comme je voulais la lier un peu au. La lier au combat spirituel. Bon. Bon. De toute façon, déjà la contrition, la confession, comme on dit, donc dire des actes, dire. Alors, suivant les tempéraments aussi, peut-être. Bon, évidemment, on est tenu d'abord en premier lieu au péché grave. Dans les péchés véniels, bah, ceux qu'on commet le plus souvent, qui viennent souvent de nos défauts qui dominent, ou même de nos. Ah, mais mon père, ah oui, c'est une objection très importante. Je confesse toujours les mêmes péchés. Ah, bah, rassurez-vous, vous n'êtes pas une bête étrange, c'est à peu près pour tout le monde pareil, plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'on est toujours. Vous voyez, j'ai une chaise à la maison, elle est toujours bancale du même côté. Ah, bah, voilà, nous sommes toujours un petit peu bancales du même côté. Parce que d'abord, par notre tempérament, nous avons souvent les défauts de nos qualités. Donc, on va pécher avec certaines des qualités qu'on a. Vous êtes par exemple un tempérament énergique, passionné. Bah, votre truc, ça va être la colère, c'est tout. Hein, puis jusqu'à la fin de votre vie, quoi. Puis même un quart d'heure après la mort, peut-être. Avec l'amour propre. Il meurt après un quart d'heure après la mort. Bon, vous êtes un peu. Vous aimez un peu trop les biens sensibles. Alors, bon, bah, ça va être la gourmandise, ça va être la curiosité, ça va être la langue, etc. Votre amour va consister à réduire ces péchés, à les remplacer par des vertus. Voilà. Car le premier travail de la confession, la contrition, c'est de déraciner les vices en vue de planter les vertus. On ôte le mal, la nature horreur du vide, on ôte le mal pour planter le bien. Pour planter les vertus. Et plus on plantera avec ardeur les vertus, moins il y aura de place ensuite pour le mal. Et d'où l'importance de prévoir un peu les moyens qui vont nous aider à moins commettre de péchés. Ensuite, bah, on accomplit sa pénitence sacramentelle. Alors, savoir que la pénitence sacramentelle, c'est elle qui d'abord efface le péché. Et il y a deux choses qui sont. Il y a d'abord on rétablit le vertu. Vous voyez, c'est quand on a un péché, il y a l'offense à Dieu. Et puis, il y a un certain désordre dans le monde créé. Vous faites un acte d'injustice, bah, vous offensez Dieu, vous avez volé quelque chose. Et puis, vous avez aussi, il faut restituer à celui qui vous avait volé. Alors, soit directement, ouvertement, soit de façon occulte. On peut rendre de façon occulte aussi, c'est un péché contre la justice. Et deux ans, donc il faut expier des deux côtés. Donc, répare par rapport à Dieu. Puis, on répare aussi par rapport à l'ordre qu'on a troublé. Hein, par exemple, on dit pour les enfants, ils aiment bien s'exprimer. Ça, c'est des petits exemples. Hein, vous faites un gros péché de gourmandise, là, tellement que vous faites rendre, bon, etc. Vous allez vous confesser, ouais, n'empêche que vous aurez quand même votre crise de foi, quoi. Et trouver l'ordre voulu par Dieu, il ne faut pas trop manger. Voilà. Alors, faites d'abord bien cette pénitence sacramentelle. Elle répare l'offense et elle enlève les peines qui pourraient. Elle atténue les peines qui pourraient succéder à cette offense à Dieu, à ce trouble de l'ordre commun, de l'ordre du bien commun. Et elle vous donne, et ça c'est très intéressant, une grâce spéciale, une grâce particulière, un certain droit, dit Jean de Saint-Thomas, le grand commentateur de Saint-Thomas. Un droit à des secours spirituels particuliers. C'est intéressant. Donc faites bien votre pénitence sacramentelle. Alors souvent, nous avons une prière. Le plus efficace, c'est de faire des actes contre le défaut majeur qu'il y a eu dans notre confession. Pour ça, nous demandons la méthode pour les enfants, mais elle vaut pour les adultes. Quel est le point particulier que vous travaillez jusqu'à la prochaine confession? Ah, oui, j'y ai pas pensé. Bah, pensez-y. Un point particulier. Ah, c'est souvent mon défaut dominant. Bon, bah, alors, défaut dominant. Ah, je connais pas mon défaut dominant. Prenez n'importe lequel défaut. Parce que quand vous tirez un défaut jusqu'au bout, vous trouvez le défaut dominant. Ah, par quel côté je vais soulever le tapis? Bah, soulevez-le, tout le pas de tapis va venir avec. Ah, bah, je sais pas. Bon, il y a sûrement, vous avez sûrement deux, trois défauts. Ah, bah, non, je sais pas. Demandez autour de vous, on sait toujours beaucoup mieux autour de vous quels sont vos défauts. Ah, oui, je ne sais pas trop demander. bon. Ah, les bons effets, oui, c'est ça que je voulais vous dire, qui est important. Les bons effets de la pénitence, enfin, tous les, justement, par rapport à ces grâces-là que vous obtenez en vous confessant. régulièrement, à fréquence. Ah oui, quelle est la fréquence de la confession ? Pour un chrétien normal, ce serait tous les 3 semaines, 1 mois, ce serait bien. On peut faire plus, pas beaucoup, on peut se confesser un peu plus souvent, mais pas beaucoup plus longtemps que ça. Tous les mois, mois et demi, il y a une grande fête en général, confessez-vous, au premier samedi du mois. Alors, les effets. Ah, voilà. Quand on se confesse comme il convient, contrition, confession, honnête, sincère, droite, simple, si vous n'êtes pas sûr, vous interrogez le prêtre, il vous aidera. Outre le pardon du péché, elle produit l'atténuation des passions et des vices. Ah, c'est intéressant parce que c'est les sources habituelles de nos péchés. La guérison progressive de l'âme, la force contre les tentations, et souvent même l'extinction du feu qu'allume ses fautes, ses péchés. Hein, parce qu'un péché, prédispose à un autre, un nouveau péché. Et Pie XII, alors Pie XII résume un peu tout ça, c'est très bien ce qu'il dit, Pie XII. Il donne 8 effets, Pie XII, pour la confession fréquente, dans l'encyclique Mystici Corporis. Augmente la vraie connaissance de nous-mêmes, se connaître soi-même, pour s'aimer à la lumière de Dieu et haïr ce qu'il y a de mauvais en nous. La vraie connaissance de soi. La plus grande grâce de la vie spirituelle, connaître Dieu, connaître notre âme. C'est la plus grande grâce de la vie spirituelle. Parce que cette connaissance, double connaissance de Dieu et de soi-même, est attachée le bon amour de Dieu, le bon amour du prochain et la juste haine de nous-mêmes. Favorise l'humilité. Eh oui, ah, je ne suis pas humble. Confessez-vous plus souvent. Vous serez plus humble. Déracine les mauvaises habitudes. Combat la négligence spirituelle et la tiédeur. Ni chaud, ni froid, tiède, bon. Purifie la conscience. Fortifie la volonté, souvent faible. Permet, facilite la direction spirituelle. On connaît nos actes et de nos actes, on va remonter aux facultés, aux habitudes qui sont à la source de ces actes. Et par l'effet propre du sacrement, l'effet propre spécial du sacrement, augmente la grâce dans l'âme. Vous sortez avec un degré de charité plus grand, toutes les confessions, en principe, même de simples péchés véniels. Alors, satisfaction, donc, c'est la pénitence sacramentelle. Dom Marmion dit, ajoutez-y une petite pénitence personnelle, pas forcément une prière. Le mieux, c'est d'ajouter une petite action ou quelque chose qui va éloigner l'occasion de vos péchés habituels. Alors, il y a des occasions libres, puis il y a des occasions nécessaires. On est toujours dans les mêmes occasions obligatoires parce qu'on est dans telle famille, tel milieu de travail, etc. Bon. Mais les occasions qui viennent de nous, qui sont sur lesquelles nous avons une liberté, est-ce que je peux faire reculer un peu ce défaut ? Et nous encourager un peu nous-mêmes. Dire, ben, je peux faire un. Si je ne fais qu'un péché de moins, d'ici ma prochaine confession, ça doit m'encourager. Mais il y en a, ils ont toujours l'art de voir que le côté. Il y en a qui le voient à moitié plein, et là, tu vois toujours à moitié vide. Il y a deux tempéraments. De se dire, ben, j'ai fait une avancée dans le bien, ils pensent à ce qu'ils n'ont pas réussi. Alors, le moyen d'être tout le temps découragé et triste. Non. Donc, satisfaire au péché, réparer l'ordre. Et c'est sûr que pour ça, je vais commencer parce qu'il me semblait que c'était... J'ai demandé à l'abbé Troidec peut-être de faire un peu plus long ce soir, donc je vais commencer là pour que ce soit juste ce qu'il faut. Et pour ça, avoir... Vous voyez, pourquoi y a-t-il un sacrement de pénitence ? Pour qu'il y ait en nous une vertu de pénitence, une habitude de renoncement d'affication. Depuis le baptême, nous vivons pour Jésus-Christ et nous devons travailler à faire mourir le mauvais homme en nous, avec la triple concupiscence, celle des yeux. Concupiscence des yeux, orgueil de la vie, concupiscence de la chair, hein, les yeux, les désirs, les curiosités, les bon, tout ce qui s'allume par les yeux de mauvais, concupiscence de la chair, l'impureté, etc. Orgueil de la vie indépendante, de la vie autonome, je fais ma vie, la vie égoïste, la vie orgueilleuse, la vie qui mène l'âme au tombeau de l'enfer. Avec 7 croque-morts. Vous savez quels sont les 7 croque-morts de l'enfer, de l'âme chrétienne ? Les 7 péchés capitaux. Orgueil, l'envie, la gourmandise, la paresse, la colère, etc. Tâcherai de vous apporter des feuilles pour ça, ou au moins de vous donner tout ce qui est accompagné. Alors, il faut travailler à diminuer ça. Et par le combat spirituel, n'oubliez pas seulement le petit livre qui est très puissant, c'est un vrai manuel de combat, hein, pratique. Il paraît que c'était le maître spirituel de saint François de Sales. Des confessions efficaces, pas seulement ponctuelles. Et votre confession, elle marque une date dans toute votre vie, parce que c'est une étape pour que vous soyez des victorieux spirituels. Alors, il faut combattre. Alors, on n'a pas tous les mêmes défauts, pas tous les mêmes tempéraments. Voilà. Mais il faut combattre. Il y a obligation. Celui qui ne combat pas, il est déjà battu. Il faut combattre. Bah, il n'a pas trop envie de combattre. Bah, demandez des forces, priez. Première chose pour le combat spirituel, on prie. On prie pour connaître ses défauts. On prie pour connaître les moyens efficaces de faire moins de péchés, de déraciner les mauvaises habitudes et les défauts qu'on a. La prière, premier. Le combat spirituel met, au tout départ, pour un bon combat spirituel, il met une chose, il y a un double plateau, la défiance de soi et la confiance en Dieu. Et il dit, il faut souvent commencer d'abord par la défiance de soi. Pas la défiance qui va jusqu'au découragement, désespoir. Bon, ça ne sert à rien. Bon, non. Mais quand la défiance commence à être du découragement, désespoir, on fait remonter vite, vite l'autre plateau, la confiance en Dieu. Dieu peut tout, Dieu sait tout, Dieu nous aime, et Dieu m'inspire de combattre, et Dieu veut me rendre victorieux. Voilà la grande pensée qui doit dominer dans notre combat spirituel, pour que la confession soit fructueuse et efficace. Plus nous sommes généreux au combat, et plus nous recevrons des forces dans les mérites du précieux sang qui sont dans la confession. Il y a des âmes qui tombent plus souvent, mais qui parce qu'elles combattent plus souvent. Voilà. On peut des fois faire des péchés notables, mais parce que justement on combat. Hein? Vous avez peut-être remarqué, en carême. C'est souvent ça, amusant ça. Ah, depuis que j'ai pris cette religion, j'ai jamais été aussi tenté. Ah, faut pas prendre de résolution. Et tout le contraire, il faut faire. C'est bon signe. Hein? Ah, je ne serais pas gourmande. Ah, bah, c'est justement là, gourmand. En carême, là, pff. Oui. Pourquoi ? Parce que ça attire votre attention, puis aussi, malheureusement, ça attire l'attention du démon qui ne veut pas que vous progressiez. Et puis aussi un peu le bon Dieu qui vous entraîne, là, qui bon, il vous ménage de ce qu'il faut. Hein, Saint-Philippe Néri, donnez-moi la patience. Je te donnerai la patience, mais attends, je vais te donner des occasions pour que tu puisses la pratiquer. Ah, il ne faut pas se décourager, surtout si on a ce problème de patience. Il faut du temps, beaucoup de temps pour la patience, et y revenir à la charge. Non, nous battre avec défiance de soi, forme d'humilité. Alors, on ne peut rien par nous-mêmes, rien. Quel que soit le nombre d'années de la grâce qu'on ait, quel que soit les actes de vertu, même héroïques qu'on a posés, livrés à nos pauvres forces, on ne peut rien du tout. Mais avec Dieu, on peut tout. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu nous aime. Hein, la parole de Sainte Thérèse d'Avila. C'est bon de s'en répéter. Dieu peut tout. Comment ? Un Dieu qui a fait tout l'univers de rien du tout, il ne serait pas capable de se faire aimer d'une âme qu'il a faite pour lui, qui est baignée dans le sang de Jésus-Christ ? Dieu peut tout. À partir de rien. Ah, vous me direz que le péché, des fois, ça offre plus de résistance que le ex nihilo de la création, c'est vrai. Dieu, c'est rien du tout pour lui, le péché. Quand il y a des saints, vous allez dire, grande croix, non, petite croix, petit rien, grande croix, grand rien. Ah bah, il était bien un saint, t'es celui-là. Le péché, c'est pareil pour mon Dieu. Grand ou petit péché, devant sa toute-puissance, sa miséricorde, c'est rien du tout. C'est un océan de feu, le bon Dieu. Oui, il peut tout, il sait tout, il m'aime. Voilà, il y a une raison suffisante pour que je suis déjà vainqueur. Mais il faut que je combatte, je serai vainqueur si je combats. Padre Pio le disait, tant que vous combattez, vous êtes vainqueur. Tant que vous combattez, vous êtes vainqueur. Défiance de soi, confiance en Dieu, prière, et nous verrons ça peut-être un peu plus ce soir pour le combat spirituel, le bon usage de nos facultés, bon usage de notre intelligence, de notre volonté, de notre imagination, voilà, de nos facultés, de nos qualités, voilà, parce qu'on a des qualités, hein, souvent. Et faites attention à ça quand vous faites vos examens. Vous regardez jamais vos qualités, jamais vos victoires, vous craignez trop l'orgueil. Bon, d'accord, mais il faut aussi savoir s'encourager. Bon Dieu, il ne produit pas des bonnes choses en vous. Faites jamais un acte de vertu, jamais... Ce serait bien déshonorant pour le bon Dieu. D'accord, il faut regarder ce qu'on a fait de mal et se dire pécheur, etc. Oui, mais il faut aussi dire, mon Dieu, ah, ce bien-là, c'est vous qui l'avez fait. Et des fois, le bon Dieu ne nous fait jamais autant attendre pour une vertu que parce que quand il va en donner les premiers germes, on ne pourra pas lui prendre, dire c'est grâce à mon attente, à ma persévérance, à ma prière. Non, non, il dira, ah, ça c'est vous qui avez sûrement fait, parce que moi c'est radicalement impossible que j'ai pu poser un tel acte bon. Et c'est pour ça des fois que le bon Dieu fait attendre pour une grâce pour nous ou pour d'autres, pour que vraiment la gloire lui en revienne à lui uniquement, très uniquement. Défiance de nous-mêmes, confiance en Dieu, prière, bon usage de l'intelligence, de la volonté, de l'imagination et notre corps, évidemment. Nous verrons ça peut-être plus longuement ce soir. Pour le combat spirituel qui sera le sujet de ce soir. Je tâcherai d'être pas trop fatigant avant le repas, avant le compli. Donc on verra un peu les règles du combat spirituel.